peux plus. Je sais que j'ai du mental, je vais y arriver. Allez. Mentalement, c'est dur.
Ça progresse.
Bienvenue dans ce podcast immersif. Je vous emmène avec moi dans la traversée du GR20 en Corse, un sentier réputé comme l'un des plus difficiles d'Europe. Vous allez entendre des pleurs, le fracas des bâtons de marche sur les roches, des souffles, beaucoup de souffles, et des randonneurs venus du monde entier.
The GR20 is very, very technical, really hardcore.
Ça tape un peu. Fin de journée, les épaules, quand tu poses le sec, t'as pas envie de le reprendre.
C'est magique.
Je m'appelle Rebecca Alexis Langard et voici mon aventure. C'est parti.
Première étape, je m'élance de Calanzana. Il est 7h et nous sommes le lundi 13 septembre 2021. Je suis en short et en débardeur. Il fait déjà 20 degrés. Il va falloir que je m'habitue au bivouac parce que je me suis réveillée toutes les heures. J'ai de tout petits yeux ce matin. Mais bon, je vais régler mon horloge biologique en me couchant et en me levant tôt. Ce qui n'était pas le cas hier soir puisque j'ai fait mes premières rencontres avec des randonneurs. Et celle qui m'a le plus surprise, c'est Thierry, un Français d'origine chinoise de 30 ans. Il est médecin urgentiste à Paris.
Cette année, je ne me suis pas du tout préparée. J'ai essayé de courir un petit peu avant de venir, mais c'est le maximum que j'ai pu faire.
Du coup, tu t'attends à quoi ?
À marcher beaucoup plus avec le mental qu'avec le physique. J'avais déjà fait le GR20 il y a 4 ans, où j'avais aucune expérience. J'y étais venu sur finalement un coup de tête, parce que c'était un défi lancé par des amis. Donc j'avais réservé mon billet la veille. Je suis parti en lendemain de garde, donc sans avoir dormi. J'ai pris l'avion, j'ai dormi dans l'avion. En descendant de l'avion, taxi, qui me dépose sur la place centrale et il me dit voilà, c'est tout droit. Et puis je descends, pas préparé du tout. Vraiment là, tu vois vraiment quelqu'un qui est sorti de nulle part et qui emprunte un sentier, il sait pas ce que ça veut dire. Moi, quand j'étais parti, la première fois, je m'étais dit, oh, la première étape, bah, c'est 10 km, ouais, 10 km c'est 3 heures. Et quand je cours 10 km, c'est 45 minutes, 1 heure. Et puis en fait, je me suis rendu compte que j'ai mis 6 heures. Et là, à ce moment-là, vraiment, quand je suis arrivé au premier gîte, là, c'était vraiment les gens qui me disaient « Mais celui-là, il est vraiment inconscient. Il a un sac à dos décollé, il est en conning. » Et beaucoup de gens m'avaient dit de sortir dès la deuxième étape. Puis à ce moment-là, j'ai suivi d'autres et j'ai continué. Mais là où c'est vraiment difficile et là où on s'y attend pas, c'est que donc au moment où tu pars de la première étape, une fois que tu es au premier refuge, hors tout, une fois que tu pars là, tu vas voir juste à ta droite une pancarte qui dit Karodzou, 5h30, 6h30 de marche. Et après, tu regardes sur ta carte, tu dis, mais il n'y a que 6 km. Et là aussi, c'était vraiment une deuxième claque. Donc, je commence à marcher, je cours, je me dis, mais c'est pas possible. Comment faire 6 heures pour faire 6 km? Et au final, j'ai mis 5 heures. Après, je me suis vraiment calmé, je me suis fié au panneau. Et j'ai dit que voilà, je vais essayer de faire le maximum que je peux. Et à ce moment-là, à partir de la deuxième étape, je partais très tôt le matin. Et je doublais chaque étape par jour pour pouvoir finir, parce que sinon, j'étais coincé dans la montagne. Et finalement, ça s'était plutôt bien passé. J'ai pas réussi à finir, malheureusement. Mais voilà.
Mais t'as fait combien d'étapes ?
J'avais fait jusqu'à Vidzavone, donc toute la partie nord de la Corse. Ça représente à peu près 100 km.
Dans quel état tu es quand tu décides de le quitter et de pas aller jusqu'au bout ?
Il y a beaucoup de tristesse. On sent quand même une insatisfaction, un peu d'échec, mais on est quand même content. Mais oui, c'était pas mal de déception. Mais au final, voilà, c'est pour ça qu'on est revenu. Hein.
Donc tu prends une revanche en fait aujourd'hui en te lançant dans le GR20 à nouveau ?
Pas une revanche, mais je reviens vraiment avec plaisir.
À chacun ses difficultés. La première pour moi, c'est que mes règles sont arrivées à l'aéroport le jour du grand départ. Elles ont décidé d'arriver en même temps que moi en Corse, donc c'est super, voilà. Ça rajoute de la fatigue en plus de la qualité du sommeil en tente, qui est très fragmentée.
Là, je commence le GR à travers les petites rues du village. J'arrive très vite sur les chemins caillouteux du sentier. Le départ donne le temps, là. Oh. Il faut bien soulever les genoux. J'ai 11 km à faire. Et ça ne fait que monter pour cette première étape. Il y a 1450 mètres de dénivelé positif. Ça se réalise en 6h30 selon les panneaux. J'ai aperçu un couple de randonneurs à la sortie d'une petite chapelle juste avant le chemin de cailloux. C'est Laurent et Ludivine, un couple venu du Béarn.
Bon, on s'est renseigné un petit peu sur ce que c'était le GR avant de venir. Et on sait que le nord est plus dur que le sud. Et donc, moi, passer les 3-4 premières étapes, après, j'irai mieux. Là, voilà. Après, on a l'habitude, hein, parce qu'on vient des Pyrénées, donc on sait ce que c'est aussi de randonner. Plus Laurent que moi aussi, parce que lui, il a fait tout le GR10. On a fait un peu Saint-Jacques, enfin lui plus que moi aussi. Et donc voilà, on a l'habitude de marcher. Bon, après, on part avec un petit handicap, lui la cheville, moi le genou. Mais ça va le faire.
En tout cas, vous êtes bien préparés, quoi.
Oui, oui, on a l'habitude de faire des randos bivouac dans les Pyrénées. Voilà, c'est que du bonheur, quoi.
On se prépare quand même un peu. On ne peut pas partir comme ça, à l'improviste, sans entraînement et des équipements basiques, quoi.
Pour vous partez d'égal à égal, là.
Exactement. On est à 80% de nos capacités.
Bon courage.
Eh bien, merci beaucoup. Eh bien, vous aussi, surtout. Hein.
Qu'est-ce que c'est calme. C'est magnifique. Le jour s'est levé,
si ce n'était pas un rêve.
On traverse là, pour ce début de sentier, de hautes herbes vertes qui contrastent avec le tronc noir des arbres brûlés. Il y en a beaucoup là au départ. C'est très divers. Il y a même des vaches sur le passage. Alors là, il y en a une qui est en train de s'abreuver. Elle a la tête entre deux rochers. Elle a l'air complètement assoiffée. Alors là, juste à côté, là, c'est pas du tout une vache, c'est un taureau. Oui, c'est bien un taureau, ouais. Alors, je vais vite passer mon chemin. Bon, ça va, il a l'air de pas trop broncher. C'est bien, voilà. Reste où tu es pendant que je passe juste à côté de toi, s'il te plaît. Premier passage technique. Là, il faut descendre par une chaîne.
Regarde si tu t'es appuyé par la chaîne. Hein.
Ah, oui, oui, oui.
Elle, c'est Nathalie, une marathonienne de 56 ans. Elle fait le GR20 avec sa fille de 28 ans, Claire.
De Calenzana, c'était plutôt facile, on va dire. Les lacets dans la montagne et tout, c'était sympa. En plus, on était à l'ombre. Et après, il y a eu la partie rocailleuse, un peu plus escarpée, plus physique. C'est varié. Et c'est ce qui fait aussi la richesse et le charme du GR20. Donc pour l'instant, ça va, plutôt positif.
Et vous attendiez, est-ce que ça grimpe autant? Est-ce qu'il fallait, est-ce qu'elle a été comme ça ou pas?
On nous avait pris un peu pas l'ampleur, donc la première étape apparemment, elle était assez difficile, selon le guide, ouais, les deux premières. Avec des parties techniques. Mais on fait au fil de l'eau et on s'adapte. Hein.
Malheureusement, la maman de Claire sera contrainte d'abandonner l'aventure à la moitié du parcours à Vidzavona à cause d'un épanchement de synovite dans de ses genoux. C'est un problème très fréquent sur le GR20. En plus, des entorses, des ampoules, des ongles d'orteil perdus, des brûlures aux pieds. Mais tout ça, j'aurai l'occasion moi-même de vous en reparler dès la deuxième étape. 11 km plus tard, bien arrivé à Ortou. Ah, le bonheur que c'est d'enlever ses chaussures là. J'ai les pieds qui chauffent. J'ai déjà les chaussettes trouées. Je savais pas qu'il fallait apparemment réserver sa tente. C'est 7€ quand on réserve l'emplacement. Sinon, c'est 12€ sur place même quand on a sa propre tente, puisqu'il faut réserver l'emplacement et après on a accès aux douches, aux sanitaires. On a accès à une petite cuisine d'été aussi. Il y a des bonbonnes de gaz à disposition, puisqu'il y en a qui sont abandonnés. Et c'est assez grand en fait, c'est vraiment magnifique. Il y a beaucoup de soleil. Mais par contre, il n'y a pas de réseau, et pas d'eau chaude et pas de papier toilette.
Ah ouais, il y a des bernets sur GRV.
Ah,
sur
y en a,
ah
c'est beau ça.
Non, mais c'est partout ces bernets. D'ailleurs, comme chacun sait, une belle fille au Pays Basque, c'est une bernée.
c'est une blague un peu nulle. Pour berner.
Cette blagueuse-là, c'est Flora, une Béarnaise de 27 ans, venue seule sur le GR20, elle aussi.
La montagne, ça m'a toujours passionnée, quoi. Enfin, j'en ai fait depuis petite, avec mon père. Après, j'en ai fait voilà, beaucoup à la fac de la montagne, là, depuis que j'ai 17 ans. J'ai jamais arrêté. Et le GR20, bah, forcément, c'est quelque chose dont on entend parler l'univers de la montagne. Puis j'ai des amis qui sont allés. Ce sont beaucoup des amis qui m'ont raconté. Ça m'a donné envie d'y aller. Voilà.
À quoi tu t'attendais en arrivant ici?
Alors,
on n'est qu'à la première étape.
Ah oui, là, on est au refuge d'Ortu et au Piobu. Donc, la première étape dans le sens nord-sud, ouais, du GR20. Et alors, à quoi je m'attendais? En fait, à des paysages secs qui sont ceux du sud-est de la France. En fait, je m'attendais un peu à ce prolongement-là en Corse. Et c'est assez exotique pour moi, hein, qui vient du Béarn, où c'est très humide. Hein. Et ça me fait penser un petit peu aussi, juste pour l'aspect du chemin, tu vois, à la cordillère santiaguinoise au Chili, la pré-cordillère de la région de Santiago, comme ça, où tout est hyper sec aussi. Ce qui est assez agréable quand tu fais du camping. Hein. L'humidité, moi, ça m'énerve.
J'étais surprise, tu vois, hier, et il n'a pas plu. Et ma tente, c'était hyper humide.
Ah ouais, ah ouais.
Je pense qu'elle est tellement étanche qu'elle le condense à l'intérieur.
Oui, c'est ça, c'est la condensation. Il faut bien aérer. Tu as peut-être des petites fenêtres, tu sais, que tu peux ouvrir sur les côtés. Souvent, c'est ça, hein, les tentes. Il y a des genres de petites lucarnes que tu peux étendre. Ouais.
Toi, t'es quel genre d'ornaise? Si tu devais te définir.
Enfin, pas compétitive, mais plutôt vis-à-vis de moi, je pense que je me pousse hein, pas mal. Hein. Mais en vrai, je pense que c'est possible de le faire en 10 jours. Moi, j'ai prévu 11. Je sais pas trop. On verra bien comment ça se passe.
11 jours, c'est un énorme défi quand même.
Ça fait 5 étapes qui ont été collées à une autre. Je sais pas si c'est un énorme défi parce que j'ai un copain qui m'a dit. Méfie-toi des prédictions horaires parce que parfois c'est trop court et d'autres fois c'est trop long. Tu vois, c'est un peu les deux. Tu vois, c'est pour lui en tout cas. Lui, il a fait en 10 jours et il m'a dit il en a trouvé certaines trop optimistes et d'autres trop pessimistes. Voilà, donc méfiance. Je pense qu'il faut mieux regarder les kilomètres et le dénivelé. Enfin, moi, c'est ce que je regarde. D'ailleurs, je regarde d'abord le dénivelé et puis après les kilomètres parce qu'éventuellement, quand t'as vraiment beaucoup de plus de 20 kilomètres, là ça commence à être long.
La deuxième et la troisième étape me paraissent vraiment très très longues. C'était marqué 7 heures plus 6 heures et demie de route et tu vas les
suivre. Ouais, alors je pense que ça sera une je pense que ces prédictions horaires sont pessimistes. On verra bien. Ouais, c'est clair. Non, mais en vrai je pense que je mettrai pas 12 heures. Il prévoit 12 heures. Mais après, je vais partir tôt, dans le doute. Mmh. Et puis.
À quelle heure tu te lèves?
Du coup, comme c'est potentiellement une grosse étape, je vais partir à 7 heures. Et je pense que je vais me lever à 6 heures, du coup.
Ouais. Tu marches vite, tu marches très vite.
Je pense que je marche assez vite, ça va aller.
Moi, je vais manger.
Moi, je suis super à l'aise. Je suis beaucoup plus à l'aise ici qu'à la plage.
Ce bel accent-là, c'est celui de Marco, un Suisse italien de 46 ans, seul. Un grand trailer en vacances et pour lui, les congés, c'est randonnée.
J'aime bien marcher, j'aime bien la montagne, j'aime bien être dehors. Et c'est pas le premier randonnée longue que je fais. J'ai fait aussi un peu d'alpinisme. Mais moi, j'aime vraiment, je vis en la montagne. Je suis instructeur de ski en hiver. Je fais un petit peu d'escalade, mais juste un petit peu. C'est bon entraînement pour quand on fait des étapes comme demain. C'est un peu plus technique. Et ça fait maintenant des années que je fais aussi des trails dans les États-Unis. Long distance, through hiking. Non? Je trouve, année après année, il y a plus de gens en montagne avec des grands sacs. Et ça, j'adore ça.
Pourquoi?
Parce que tu arrives à parler avec les gens, tu fais des rencontres, c'est toujours intéressant d'écouter les histoires. Et c'est beaucoup plus facile de rencontrer du monde en montagne, je trouve, qu'en ville.
C'est pas le même esprit.
Ouais.
C'est quoi l'esprit du randonneur pour toi?
C'est la liberté, c'est de l'air frais, d'être dehors, d'aller à l'aventure. C'est ça. J'ai entendu de ces GR20, tout le monde en parle, je me suis dit, mais non, je fais.
C'est la première fois du coup?
Oui, oui. On n'a pas le temps dans la vie de refaire deux fois la même chose.
Tu l'as trouvé comment la première étape du GR20? Toi qui fais énormément de sport au quotidien.
Moi, je dois encore rentrer un peu dans le mood, hein, honnêtement. Ce matin, je suis parti. Ouais, c'était très sec, je dirais, la première partie. Mais c'est bien. Maintenant, je trouve qu'on est à la hauteur. Ça commence à être bien, ça. 1500 mètres, 2000 mètres, ça c'est un peu ma
ton domaine.
Mon domaine, ouais, exactement.
Ils ne le savent pas encore, mais Flora et Marco vont très vite s'associer et réaliser tout le GR20 ensemble. D'autres ont décidé de l'affronter entre amis, comme Loris et Clara, des Parisiens trentenaires.
On a décidé de faire ça sur un coup de tête. Moi, ça fait 10 ans que j'ai envie de le faire. Et à chaque fois, je pensais le faire avec mon mec. Voilà. Et j'ai jamais eu de mec qui voulait bien venir faire un truc avec moi en me disant « Mais pourquoi tu vas t'infliger ça, etc. ?» Et là, je finis par en parler à Lolo. On était complètement bourrés en soirée en disant « Ouais, moi, tu vois, je veux un mec qui me suive pour faire le GR20. J'ai envie de faire des aventures comme ça, quoi. » Et du coup, Lolo me fait « Mais moi, je te suivrai. » Je suis là, d'accord, trop cool. Je me dis « Vas-y, tu veux venir faire ça quand ?» Et puis, on fait « Bah, moi, j'étais en septembre. » « Bah, moi aussi. » Du coup, en fait, on était complètement bourrés. Le lendemain matin, on avait acté le truc. Et
au début, on devait le faire en 6 étapes en 6 jours. Et moi, ça me motivait pas trop parce que, comme Clara, je voulais vraiment le faire en totalité, quoi. Autant poser 4 jours de pavé de plus et le faire en 10 jours et doubler.
Et alors, cette première étape, elle était à la hauteur de vos espérances?
Ouais, intense. On a bien persévéré. Laurie, ouais, ça a été super facile pour toi. Moi, un tout petit peu plus dur, mais ça va. On était tellement, en fait, là, on est tellement motivés que. On nous aurait fait tout faire,
c'est...
Ouais, on va le finir. Enfin, en fait, dans la tête, on est tellement prêts. Et psychologiquement, mais je crois que c'est là que ça tient. Enfin, c'est psychologiquement. Bon, on verra, on te dira ça dans 10 jours.
Pour ceux qui veulent, comme moi, s'aventurer seuls, mais en croisant toujours des personnes sur le sentier, le mois de septembre est la période la plus fréquentée, comme le confirme Joseph, un des gardiens du refuge d'Ortou, le départ de l'étape 2.
Il y a un monde fou, et après juillet et août, là c'est particulier parce qu'il y a eu le Covid. C'est-à-dire que comme les gens ne sont pas partis à l'étranger, ben, ils sont tous restés ici, et du coup, ben, il y en a beaucoup qui sont rabattus pour le GR20 parce qu'ils avaient besoin de nature, d'air frais, et tout. Ça représente tout ça, de liberté. Et du coup, on a eu beaucoup, beaucoup de monde sur le GR20. J'espère qu'année prochaine, ce ne sera pas comme ça.
Ouais.
Mais non, parce que ça dénature. Eh oui, ça dénature tout. Vous avez trop de passages, les structures ne suivent pas forcément. Quand vous avez 150, 200, 250 personnes, c'est pas la même chose. Hein. Et septembre, ben, c'est pareil, c'est victime de son succès. Il y a toujours du monde aussi. Mais jusqu'à la moitié du mois, après, ça commence à décliner.
Okay, mais vous qui connaissez très bien le sentier, vous recommandez aux marcheurs de le faire de quelle date à quelle date précisément?
Juillet, c'est bien, parce que c'est là où, finalement, vous avez encore des journées longues, ouais. Il fait pas encore trop chaud, vous avez encore tous les ruisseaux en eau parce qu'il y a la fonte des neiges et tout ça. Donc juillet, c'est pas mal, c'est bien. Après août, il commence vraiment à avoir des grosses chaleurs, et puis après, vous avez le risque d'orage d'après la mi-août.
J'ai pris le taxi, du coup, en allant à Calanzana, depuis l'aéroport de Calvi, et le taxi driver m'a dit que c'était toujours entre 15h et 17h les orages. C'est vrai ou pas?
Plus ou moins, oui, c'est toujours dans l'après-midi. Hein. C'est en début d'après-midi. Après, si ça éclate, des fois, on en a même aussi tôt le matin, mais c'est sûr que, normalement, ça monte crescendo dans la journée, puis après, l'après-midi, bah, ça explose. Hein. C'est les différences de température qui font que... Voilà, hein.
Et de la pluie, comme on a eu là tout à l'heure, ça ne dure jamais vraiment,
ça,
non?
Ça c'est bidon, ça c'est juste pour rafraîchir, mais ça n'a pas duré, vous avez vu, il n'y a rien. Ça fait 3 mois qu'il ne pleut pas. Donc on a eu quelques orages, mais ça n'a même pas remis un peu d'eau dans les ruisseaux ni rien, hein, pour les cuves et tout. Ça a été bidon, quoi. Hein. Ce qui est tombé, c'était pas assez conséquent pour pouvoir remplir toutes les cuves. Parce que là, on marchait sur des cuves, c'est pour ça que je vous dis de boire à la source. C'est qu'on a des cuves pour pouvoir fournir l'eau pour les douches, pour que les gens puissent laver un peu leurs vêtements et tout ça. Mais je veux dire, il n'y a pas assez d'eau. Si vous voyez le captage de l'eau, il n'y a rien qui coule, c'est un filet d'eau. Donc on gère tout ça, des fois on ferme l'eau. Mais par contre, on a la chance ici d'avoir une source qui coule tout le temps, qui a été trouvée par les vieux bergers de l'époque. Et elle coule même en plein mois d'août, même en pleine sécheresse, ça coule. Donc vous pouvez au moins vous rafraîchir. Et ça, c'est...
Il y a une source que dans ce refuge-là, à Ortou?
Non, après il y en a d'autres aussi. Hein.
Il y en a d'autres?
Mais ici, c'est sa force. C'est sa force, c'est-à-dire qu'on a une source qui fait que vous pouvez boire, et je vous dis, même en pleine sécheresse, elle a toujours coulé. Il y a des autres endroits où même les sources, des fois, ça tarissent un peu. Hein. Mais okay. Bon, demain, en tout cas, faites bien le plein, ça c'est sûr.
Oui, bien sûr. Hein, bon, il faut toujours. Ben, hein.
Oui, parce qu'il y a une autre source après sur le sentier, mais des fois, on ne la voit pas. Et surtout, on ne sait pas trop si elle coule là maintenant. Hein. Elle, ouais. Par contre, c'est une source qui n'est pas fiable. Voilà.
C'est à partir de quand qu'il commence à y avoir moins d'eau? Enfin, même si là, ça fait 3 mois, vous me dites qu'il
ben là, qu'il en avait là pas, c'est mais... au mois d'août, c'est sûr, hein, en général.
En général, c'est au mois d'août qu'il commence à y avoir moins de...
Je vous dis, jusqu'à fin juillet, vous pouvez avoir encore l'effet bénéfique de fond des neiges. Voilà. jusqu'à mi-juillet, tout ça. Puis après, quand ça commence à décliner, et quand il commence vraiment à faire chaud, et qu'il n'y a pas d'eau, et qu'il ne pleut pas, ben là, ça craint. Voilà.
Votre prénom, c'est quoi?
Joseph.
Joseph, voilà. Ok.
Et vous?
Trop intéressant. Rebecca.
Ah ben, c'est très joli, Rebecca.
Enchantée, ouais, merci. Ben, et vous, ça fait... du coup, vous êtes là depuis le 22 mai, vous m'avez dit. Mais depuis combien de temps vous faites ce métier?
Au parc, ça fait très très longtemps. J'ai fait ici en montagne, après j'ai fait à Scando, aussi sur la réserve maritime du parc. Il y a 1000 hectares de réserve maritime aussi, qu'on gère nous. Donc ça aussi, c'est extraordinaire comme endroit. Et après, il y a la montagne, il y a le GR, il y a le Marémonte, il y a plusieurs sentiers de randonnée. Ouais. Beaucoup de travail, mais c'est des belles rencontres. C'est des belles rencontres. Regardez, on voit des gens de partout, du monde entier. On discute et voilà, chacun partage et apporte quelque chose. Mm-hmm. Et c'est ça qui est plaisant.
Vous venez d'où là,
Moi, du Nuoro, donc c'est une région qui est dans l'intérieur de la Corse. C'est au pied du Monte Cinto, en fait. C'est toute une région-là. Mais après, j'habite ici, à Lume, près de Calvi, pour le travail. Voilà.
Fin de la première étape, loin d'être la plus difficile, ce qui va suivre est le début d'une grande aventure douloureuse et pleine de questionnements.
Je pense que ça va être difficile de doubler l'étape, honnêtement. Je sais pas ce qui m'a pris de penser que j'étais capable de doubler l'étape. Bon, on va voir. Franchement, j'avoue que j'ai les genoux... j'ai les genoux fébriles. Je pleure parce que je suis contente de voir le refuge.
L'épisode 1 de mon périple corse sur les chemins du GR20. Mon nom est Rebecca Alexis Langard, randonneuse amatrice. Suite au prochain épisode, restez à l'écoute sur Diagonale, une chaîne de podcast où je m'aventure sur les limites du mental sportif.